Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Ce jour, nous avons la joie et le privilège d'accueillir à nouveau, dans notre studio de FM Évangile 66, le pasteur Paul Calzada. Sois le bienvenu, Paul, sur cette antenne.
Merci, merci Elios, merci à FM Évangile 66 de m'avoir à nouveau ouvert son antenne. Je souhaite également à toutes les auditrices et à tous les auditeurs que la riche bénédiction de Dieu vous soit renouvelée avec abondance.
C'est la quatrième fois que tu nous rends visite et il n'est pas superflu de dire que nos auditeurs apprécient ta présence à l'antenne. Plusieurs ont fait l'effort de nous le faire savoir. Merci Seigneur et gloire à Dieu. Ta participation est trimestrielle et nous procédons sous forme d'interview. Puisque nous avons deux facettes à ces interviews, j'ai nommé celle de ce jour « Info » et enseignement, simplement parce que nous t'interrogeons sur tes activités, mais aussi sur l'enseignement que tu dispenses. Récemment, un ami commun me demandait de tes nouvelles. Je l'ai orienté sur le site web de la radio, à la rubrique « Émission », puis je lui ai dit d'ouvrir l'onglet « Auteur Paul Calzada ». Dans l'interview intitulée « Pensée d'un mois », il trouverait des infos concernant tes nouvelles activités. Et c'est aujourd'hui l'occasion de compléter ces informations.
Eh bien, on va essayer en tout cas. Lors de cette précédente émission que tu évoques, cher Elios, nous avions laissé en suspens mon déplacement à Lisbonne. Il est vrai que le temps a filé, cela fait déjà 3 mois. Mais je garde un très bon souvenir de cette semaine passée à Lisbonne. J'avais été invité par un pasteur de mes amis, responsable d'une grande église de 1000 membres, lesquels sont répartis dans divers groupes dans une dizaine de lieux de rencontre. Cette église est très impliquée dans la vision missionnaire. Elle soutient plusieurs missionnaires, soit à l'intérieur du pays, pour implanter de nouvelles assemblées, soit à l'extérieur, comme par exemple en Guinée-Bissau.
Ce que tu dis est très intéressant, car si je comprends bien, ils ne mettent pas une barrière entre ce que l'on appelle mission intérieure et mission extérieure.
En effet, cette distinction quelque peu arbitraire, lorsqu'elle existe, aurait tendance à opposer les partisans d'une action intérieure, c'est-à-dire une action d'évangélisation circonscrite sur le plan national, aux partisans d'une action extérieure développée sur le plan international. Or, Jésus a dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 1, verset 8. Et je souligne le fait qu'il n'a pas dit « où », mais « et ». Les deux vont ensemble.
Bien compris. De plus, on sort de ce qui serait une église bocale. Toutefois, je bénis le Seigneur pour tous ces lieux où dans un local, propriété ou non de l'église locale, l'évangile est annoncé. Dis-nous donc, cher frère Paul, pourquoi ce frère t'a-t-il invité ?
Eh bien, chaque année, le pasteur Paolo Branco et ses collaborateurs organisent, en janvier, une semaine consacrée à encourager les croyants à aller de l'avant dans le travail missionnaire. Ils appellent d'ailleurs cette semaine particulière « journée missionnaire ». Et ils invitent à l'occasion quelqu'un qui connaît la thématique de la mission. Il y a 30 ans que j'ai connu Paolo Branco alors qu'il était missionnaire portugais en Espagne, à l'époque où la France avait le missionnaire Joseph Alcalde également en Espagne. Et nous avons gardé un lien d'amitié depuis cette époque.
30 ans que vous vous connaissez, cela fait un bail. Et durant tout ce laps de temps, t'avait-il déjà invité ?
Eh bien non, En dehors des vœux en début d'année, nous n'avions pas eu d'autre échange. Mais sa demande est arrivée au bon moment, et je voudrais m'expliquer. En octobre 2016, un poste m'était proposé à Créteil pour développer la vision missionnaire de l'Église locale. Avec mon épouse, nous étions prêts à répondre à cette invitation. Toutefois, il y avait une légère hésitation, une interrogation, car nous désirons, comme pour chaque étape de notre service, être dans le plan de Dieu pour nos vies. Et pour ôter nos dernières hésitations, le Seigneur nous a fait un beau clin d'œil au travers de la demande du pasteur Paolo, qui m'invitait à animer, dans son église, les journées missionnaires du mois de janvier. La porte de l'engagement pour la mission, qui a toujours brûlé dans nos cœurs, s'ouvrait à nouveau devant nous, d'une manière concomitante, au travers de deux demandes programmées par le maître de nos vies.
Pour ma part, je dirais que c'est plus qu'un clin d'œil, ce que le Seigneur a fait avec vous. C'est une véritable direction divine. D'ailleurs, c'est une suggestion. Ne pourrions-nous pas aborder ce thème dans une prochaine émission ? Qu'en penses-tu ?
Et pourquoi pas, en effet. Il y a certainement beaucoup à dire sur ce sujet. Voilà de la matière pour quelques trimestres encore.
Peux-tu nous donner quelques pistes que tu as développées lors de ces journées missionnaires à Lisbonne ?
Alors, sans entrer dans les détails, voici quelques thèmes qui ont été abordés. La mission, ici et au loin. La mission, hier et aujourd'hui. La mission pour l'homme tout entier, corps, âme et esprit. L'appel d'Abraham, bénir les nations. Être avant de faire. Être le champ de Dieu pour être ouvrier avec Dieu. Pentecôte et mission. Mission et opposition spirituelle.
Cher Paul, voilà donc un autre thème que nous pourrions aborder également lors de nos prochaines émissions. J'ai le sentiment qu'au fur et à mesure que tu réponds à cette nouvelle interview, nous posons des jalons pour les émissions à venir. Nos amis anglophones disent, je cite, « to be continued ». Donc, Paul, si tu es d'accord ?
Eh bien, pourquoi pas, avec joie et plaisir. Tant qu'on a la force et la santé, je voudrais ajouter que cette assemblée de Lisbonne, qui à elle seule a eu un budget missionnaire de 72 000 euros en 2016, s'est engagé pendant ces journées missionnaires, et ce malgré la crise, à atteindre un budget de 84 000 euros pour 2017, soit 1 000 euros de plus par mois pour le budget missionnaire. C'était un bonheur de prêcher à des chrétiens autant motivés pour porter plus haut et plus loin le témoignage de l'Évangile.
Tu viens de publier trois nouveaux fascicules dans la série « Pensée d'un mois, pensée d'un jour ». De fait, cela consiste à traiter un thème sur un mois en posant chaque jour une pensée comme un chapitre du sujet. Ils ont pour titre, je cite, « L'argent et le croyant, le fruit de l'esprit et les temps de la fin ». Si nous en avons le temps, nous aborderons aussi ce sujet concernant les temps de la fin. Sinon, le prochain programme est déjà tout tracé. L'apôtre Paul écrit ceci à Timothée. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Pourrais-tu parler argent avec nous ? Maintenant, je précise qu'il ne s'agit pas d'émoluments pour ton intervention à notre antenne. Tu le fais gracieusement. Et une fois de plus, je te remercie pour ta précieuse participation à nos émissions, dont le but est la proclamation de l'Évangile et l'enseignement des croyants. Avant d'écouter ta réponse, nous faisons une pause musicale. Rappelle la question posée avant cette page musicale. Pourrais-tu parler argent avec nous maintenant ? Je précise qu'il ne s'agit pas d'émoluments pour ton intervention à notre antenne. Tu le fais gracieusement.
Eh bien, c'est avec joie que je le fais. Et je voudrais d'ailleurs compléter ta remarque à ce sujet en précisant que c'est avec ma retraite que j'accomplis ce service, et je bénis Dieu de ce que ma retraite suffit à mes besoins. Alors, au sujet de la question que tu poses concernant l'argent, il faut dire que l'argent, c'est un peu un sujet tabou, surtout dans notre pays de France. Alors, voici pour débuter une déclaration de l'apôtre Paul. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, il précise et il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Il souligne donc le fait que l'argent occupe une place importante dans le monde, mais nous le savons aussi, il occupe une place importante dans nos relations humaines qu'il convient d'examiner et de savoir quel rapport à l'argent nous devons avoir en tant que chrétiens. Les textes parlant de l'argent, de son pouvoir, de son usage, de la bénédiction ou du malheur qu'il peut générer sont nombreux dans l'Écriture. D'ailleurs, dans ce petit fascicule, j'ai proposé quelques pensées pour alimenter notre réflexion afin d'avoir une relation à l'argent qui soit équilibrée et qui nous permette de vivre tous les projets que Dieu a pour nos vies. Vous savez, il est écrit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et effectivement, l'amour de l'argent peut devenir une addiction, au même titre que l'alcool ou autre. Comment échapper au piège de l'argent ? Comment nous libérer de son emprise ? L'amour de l'argent est une forme d'idolâtrie. Aimer l'argent pour lui-même, c'est un désir jamais assouvi et de posséder toujours plus. C'est une cupidité jamais satisfaite.
Pourrais-tu mentionner quelques textes de la Bible faisant allusion à cela ?
En effet, Voici quelques textes qui soulignent cette passion immodérée pour l'argent et ses conséquences. Dieu, par exemple, demandait à Moïse de veiller à ce que ceux qui devaient diriger soient exempts de cupidité. Il lui dit « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs. » C'est ce qui est écrit dans Exode au chapitre 18 et au verset 21. Il est bien de relever au passage que ce serait une bonne chose si ceux qui dirigent étaient exempts de cet amour de l'argent. C'est une parenthèse que je referme. Malheureusement, la cupidité se retrouve dans tous les milieux, y compris les milieux religieux, comme le soulignent ces deux textes. Un exemple dramatique, ce sont les fils de Samuel. Il nous est dit qu'ils ne marchèrent point sur les traces de Samuel. Ils se livraient à la cupidité et violaient la justice. 1 Samuel chapitre 8, verset 3. Un autre exemple qui est donné par Jérémie, le prophète, il dit ceci, « Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. » Jérémie chapitre 6, verset 13. Le prophète Ézéchiel nous brosse un tableau de la société de son temps et il écrit « Les chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent des vies pour assouvir leur cupidité. » Ézéchiel chapitre 22, verset 27. Des années, des centaines d'années même plus tard, l'apôtre Paul nous parle de la société de son temps et il dit que cette société, elle est remplie de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleine d'envie, de meurtre. Romains chapitre 1, verset 29. La société était remplie de cette cupidité.
Quelles conséquences négatives peut avoir cet amour pour l'argent ?
La cupidité peut procurer l'ivresse, comme l'alcool. Mais un jour ou l'autre, il faut payer la note. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent, dit le sage, dans le livre des Proverbes, au chapitre 1, verset 19. A contrario, se garder de l'amour de l'argent peut contribuer à diminuer le stress et à préserver notre capital santé. Un terrible fait divers récent, le quadruple meurtre à Ourvault de la famille Troidec nous rappelle quelles horribles conséquences a eu l'amour de l'argent. Il a divisé la famille, il a détruit des vies. Mais la plus regrettable des conséquences de l'amour de l'argent chez les croyants, c'est qu'il discrédite le témoignage de l'Évangile. Qu'importe de ce qu'il en est dans le monde politique, artistique, sportif. Regardons devant notre porte. Malheureusement, dans tous les milieux religieux, il peut se trouver aussi des responsables et des fidèles, plus préoccupés par l'amour de l'argent que par l'amour du prochain. C'est évidemment un contre-témoignage à l'égard de la foi.
Je ne sais pas si c'est un dicton, un adage ou une maxime, mais il est courant d'entendre ceci. L'argent n'a pas d'odeur. Quelle est ta remarque à ce propos ?
Vu la brièveté de la formule et son énoncé populaire, je dirais que c'est un adage, mais qu'importe. Arrêtons-nous sur le fond. Dire que l'argent n'a pas d'odeur, cela tendrait à justifier que le fait de s'en procurer n'a, par n'importe quel moyen, honnête ou pas, n'a pas trop d'importance. Dire que l'argent n'a pas d'odeur, c'est le rendre neutre. Il ne serait ni bon, ni mauvais, dans un sens. Cela est exact. Nous pouvons en faire un bon usage, comme un mauvais. l'argent peut être une bonne chose. C'est par exemple le cas lorsqu'il permet d'assurer l'opération d'un enfant du tiers-monde, de parrainer des orphelins dans divers pays pauvres, de scolariser des enfants et de leur permettre de sortir de l'analphabétisme. Il est utile à la réalisation de projets d'éducation, de santé communautaire, de développement. Cependant, nous savons également qu'il peut être source de corruption, de trafic en tout genre. Malheureusement, l'actualité est là pour nous le rappeler jour après jour. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit « Votre or et votre argent sont pourris ». C'est dans la Bible de Jérusalem, Jacques chapitre 5, verset 3.
Peux-tu nous donner des exemples concrets ?
Bien, parfois l'argent a l'odeur de la sueur des enfants travaillant dans des conditions affreuses. Il sent l'odeur du soufre dans les règlements de compte entre truands. Il empeste le trafic des proxénètes. Il sent la corruption et le trafic d'êtres humains. La liste serait interminable. Comme le dit Jacques, l'argent sent parfois la pourriture. L'argent pourri sent mauvais, comme tout ce qui est pourri. N'avez-vous jamais eu un oignon pourri dans votre réserve de légumes ? Si oui, eh bien, vous pouvez vous représenter ce que peut représenter l'odeur de l'argent lorsqu'il est mal utilisé et mal gagné.
Oui, une odeur désagréable, certes.
Exactement.
Mais, à contrario, je suppose que parfois, l'argent peut sentir bon.
En effet, l'argent peut sentir bon. L'Évangile nous rapporte l'histoire d'une femme pécheresse, déversant sur les pieds de Jésus un parfum de grand prix. Les évangélistes soulignent le lien fort qui existait entre ce parfum et son prix. L'argent consacré à répandre ce parfum n'a pas été un argent sans odeur. Il avait l'odeur de la reconnaissance, l'odeur de la repentance, l'odeur de la consécration, l'odeur de l'amour désintéressé. Alors que certains voient dans ce parfum de l'argent jeté, gaspillé, mal employé, Jésus y voit un geste prophétique. Il dit « Cette femme a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Marc, chapitre 14, verset 8.
Merci d'avoir, par ces exemples pratiques, montré que l'adage populaire n'est pas tout à fait exact.
Je voudrais ajouter une précision supplémentaire. Contrairement à ce qu'en disent certains, l'argent n'est pas neutre. Il affecte tout notre être. Il exprime aussi bien nos désirs destructeurs que nos élans de générosité. Il touche le fonctionnement de nos échanges sociaux et familiaux. Il devient une arme de destruction ou alors un baume de guérison. Dire qu'il n'a pas d'odeur, c'est couvrir le mal ou occulter par fausse modestie le bien qu'il peut faire.
Que conseillerais-tu à nos auditrices, auditeurs ? Quel comportement pourrait-il entretenir avec l'argent ?
Je dirais, dans la mesure bien sûr où vous l'avez gagné, faites de votre argent un moyen de faire du bien, d'aider, un moyen de répandre une odeur d'amour, de réconfort. Gagnez-le honnêtement et utilisez-le pour répandre la bonne odeur de l'amour de Christ.
Autre maxime, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Qu'en penses-tu ?
Eh bien, le bonheur et l'argent, c'est un vaste thème.
Nous allons faire une pause musicale avant d'entendre ce que tu vas nous dire sur ce thème.
Thank you.
Que penses-tu de cette maxime qui déclare « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue ».
Alors, il faut reconnaître que l'argent fait rêver. D'ailleurs, voilà pourquoi le sage, dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 11, dit « La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille ». J'aimerais retenir le mot qui est employé ici, « imagination ». Dans l'imaginaire des hommes, il y a comme une sorte de relation étroite entre richesse et bonheur. Certaines publicités cherchent à nous faire croire cela. L'engouement pour les jeux de hasard, avec un nombre toujours plus grand de participants, semble suggérer que l'argent fait le bonheur. Cependant, lorsqu'on considère les divers sondages effectués dans les pays riches, une majorité de personnes indiquent que l'argent n'est pas l'essentiel. Cette ambiguïté se retrouve dans ce dicton bien connu : l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue.
Cela laisse supposer que l'argent peut répondre à certains besoins humains, mais il ne saurait à lui seul procurer le bonheur.
Exactement. Car si l'argent est nécessaire, l'argent ne saurait toutefois constituer le seul horizon de notre vie. La richesse n'a jamais été garante du bonheur. Il y a des pauvres qui sont heureux et des riches qui sont malheureux. Lorsque nous lisons les propos désabusés du roi Salomon, nous mesurons cette cruelle déception. Avec son argent, il a pu faire des choses extraordinaires. Il dit « J'exécutais de grands travaux. Je m'amassais de l'argent et de l'or. Tout ce que mes yeux ont désiré, je ne les en ai point privés. » Et puis il conclut « Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Ecclésiaste, chapitre 2, des versets 4 à 11. Rêve et désillusion. Attrait et déception. Voilà ce qu'exprime l'Ecclésiaste. En d'autres mots, il a cru que la richesse et tout ce que pouvait lui procurer l'argent allait le rendre heureux. Cependant, il n'en a rien été.
Voilà donc un riche désabusé. Mais tu parlais d'un pauvre heureux. Cela existe-t-il ?
Certes. L'argent nous permet de satisfaire nos désirs, mais cette satisfaction n'est pas systématiquement synonyme de bonheur. La source du bonheur est ailleurs. Voilà l'exemple d'un pauvre heureux mentionné dans la Bible. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, fait l'éloge de la joie et du bonheur. Il rappelle que la joie et le bonheur ne sont pas dans ce que l'on a ou dans ce que l'on n'a pas, mais dans la communion avec Dieu. Il l'exprime ainsi « Je sais vivre dans la nécessité et dans l'abondance. En tout, j'ai appris à avoir faim et à être rassasié, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Ainsi, l'apôtre Paul nous rappelle qu'il puise sa joie dans la connaissance du Seigneur, dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9. Riche ou pauvre, la réalité du bonheur se trouve dans une relation d'amour et de paix avec notre Créateur.
Jésus, à travers une parabole, souligne cette illusion, ce mythe du bonheur relié à la fortune. Un homme riche, dont la prospérité grandissait, raisonnait comme suit. « Je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Luc chapitre 12, verset 19. Mais la mort est venue soudainement détruire tous ses rêves de bonheur.
Merci Elios de rappeler cet exemple mentionné dans les évangiles.
Depuis quelque temps, certains fustigent ce qu'ils nomment, je cite, « la doctrine de la prospérité ». Or, tu écris, « Dieu n'est pas opposé à la prospérité ». Quel est donc le distinguo ?
Alors, c'est important de préciser les choses. Dieu n'est pas opposé à la prospérité, puisque c'est lui qui fait ce qu'il y ait des riches ou des pauvres. Comme le dit ce texte, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Proverbe chapitre 22, verset 2. Lorsque nous parcourons la Bible, nous y découvrons des hommes et des femmes qui connurent la prospérité matérielle. Certes, nous avons déjà cité la richesse de Salomon, mais il ne fut pas le seul à connaître une grande fortune. La richesse d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est mentionnée dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 13, verset 2. Genèse chapitre 26, verset 13. Genèse chapitre 30, verset 43. Voici ce qu'il nous est dit au sujet d'un autre homme appelé Boaz. C'était un homme puissant et riche, dans Ruth chapitre 2, verset 1. Il nous est parlé aussi de la richesse de Joseph, de celle de Job, de Barzilaï ou encore de Joseph d'Arimathée. La liste pourrait être rallongée. Retenons simplement que Dieu n'est pas contre le fait que certains soient riches. C'est lui qui l'a voulu ainsi, comme le rappelle le texte que j'ai mentionné.
Y a-t-il alors un mal à désirer la prospérité?
Alors je répondrai à cette question en deux temps. Premièrement, disons que faire prospérer ses biens, épargner au bon moment, savoir valoriser ses talents, ce ne sont pas des attitudes que Dieu réprouve. La prospérité qui découle d'un savoir-faire, d'un bon placement, d'un labeur assidu, et même encouragé par Dieu. Dans la parabole des talents, le maître félicite ceux qui ont su faire valoir les talents. Il dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur » dans Matthieu chapitre 25, versets 21 et 23. Par contre, celui qui n'a pas su faire prospérer son bien, il est accusé d'être paresseux et méchant. Matthieu 25, verset 26. Deuxièmement, la seule condition fondamentale que Dieu demande à cette recherche de la prospérité, c'est qu'elle ne provienne pas de moyens illicites. Il faut que le travail honnête soit le fondement de cette prospérité. Par exemple, la richesse de Joseph découla de sa sagesse, de sa manière intelligente d'accumuler le blé à l'heure de l'abondance. À l'heure de la famine, il put revendre ce blé à un très bon prix pour le peuple, tout en faisant un bénéfice honnête. Pour s'enrichir, certains sont prêts à vendre leur âme au diable. Il est évident que cette prospérité acquise par des voies mafieuses, par la violence, par le rapt ou le racket, ne saurait jamais avoir l'approbation divine.
Puisque Dieu n'est pas opposé à la prospérité, quelle est la faille de la doctrine dite de la prospérité?
Voilà, c'est important de montrer la différence qu'il y a entre ce désir de Dieu de permettre que certains soient riches. Dieu n'est pas contre le fait que nous devenions riches. Mais la doctrine dite de la prospérité enseigne qu'en plus du salut, le Christ promet et assure à ceux qui mettent en œuvre leur foi la richesse matérielle, la santé absolue et le succès à tout coup. C'est ce caractère obligatoire, automatique de la prospérité qui est malsain. Les promesses de la théologie de la prospérité sont élevées et fortes. Tout chrétien possède la prospérité physique et financière au même titre que le salut, disent-ils. Si la prospérité n'est pas au rendez-vous, alors ils ont un argument terrible. Ils diront « c'est que la foi est insuffisante ». Ils sont les tenants de cette doctrine et ils culpabilisent ceux qui n'arrivent pas à atteindre la prospérité. Les prophètes de la prospérité se mettent ainsi à l'abri de toute remise en cause de leurs promesses. Par contre, tout le poids de l'échec éventuel de ses promesses repose sur le croyant qui a espéré, qui a prié et qui a beaucoup donné. On renvoie celui qui n'a pas reçu à son manque de foi, ce qui est culpabilisant et contraire à ce que la Bible dit et enseigne. Dieu fait le riche et il fait le pauvre, et cela n'a rien à voir avec la foi.
Faut-il alors être passif et ne pas chercher la prospérité?
La passivité n'est pas ce que Dieu encourage, au contraire. Il encourage le labeur, l'intelligence et le bon sens. Mais jamais il ne rattache la prospérité à une simple question de foi. La crise actuelle dans nos pays dits riches vient du fait que le pays vit au-dessus de ses moyens. La dépense publique dépasse les rentrées financières. Le recours aux emprunts est devenu une fuite en avant, non seulement pour les États, mais également pour de nombreux foyers. La prospérité apparente ne repose que sur l'emprunt. Le réveil ne sera que plus douloureux. Aussi, l'une des façons des plus élémentaires de s'enrichir, c'est de ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne. C'est du bon sens, pas de la foi. Pour assurer cette prospérité, alors dépensez moins que ce que vous gagnez, n'achetez que ce qui vous est nécessaire, économisez une partie de vos gains, pensez aux pauvres et veillez à ne pas vous faire escroquer.
Nous arrivons au terme de cette émission. Une précision à l'attention de ceux qui seraient intéressés par le fascicule duquel tu as tiré quelques réponses et intitulé « Le chrétien et l'argent ». Ce fascicule, vendu 5,90 €, est disponible à l'adresse suivante. Édition Esdras, 11 boulevard Ferdinand Buisson, 11200, Lézignan-Corbière. J'ajoute que d'autres titres sont également disponibles, dont « Lueur du matin », qui est non un fascicule, mais un volume comprenant 366 pensées du jour, qui traite de 12 thèmes, à consommer donc sans modération tout au long de l'année, au fil des jours. Paul, quelles sont les dernières nouvelles des éditions Esdras?
Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui même, alors que je suis ici à la radio, on nous livre à 11h, donc dans quelques minutes, 5000 brochures, c'est-à-dire 1000 de chacun des titres suivants. Donc celui qui a fait l'objet du commentaire de cette journée, de cette matinée, le chrétien et l'argent. Ensuite, il y a le fruit de l'esprit, il y a la puissance de la prière, il y a si on parlait pardon, et le dernier, c'est l'état de la fin. 4 nouveaux fascicules sont en préparation, mais ne sont pas encore imprimés. Et les thèmes abordés sont la fidélité dans tous ses états, être des artisans de paix, la mission et l'Église, leçon du patriarche Jacob. Ces 4 fascicules devraient être édités en fin d'année 2017 ou début 2018. Je rappelle également à nos auditeurs que les pensées du jour sont disponibles gratuitement, au jour le jour, sur le site Lueur du Matin, accessible en passant par Google. Abonnez-vous gratuitement avec votre adresse mail.
Merci encore, cher pasteur Paul, comme disent nos frères africains, de nous avoir entraînés dans ces réflexions fortes, enrichissantes. C'est vraiment le mot juste. Heureux d'avoir parlé argent comptant. Je rappelle que, Dieu voulant, nous nous retrouverons le trimestre prochain, puisque cette émission à laquelle tu apportes ta contribution est trimestrielle. Que le Seigneur vous bénisse.
Bonne journée.
Amen.